Vous écoutez, on lit pour vous.
Accorde-t-on trop d'attention à la souffrance? Un texte de Marie-Hélène Proux, paru le 29 octobre 2025 dans l'Actualité. Pour l'anthropologue Samuel Vessière, l'humanité s'est développée non pas selon la loi du plus fort, mais en protégeant les plus vulnérables. Or, cette dynamique a évolué vers une culture de la fragilité qui menace désormais la cohésion sociale partout en Occident. Jamais, à l'échelle de l'histoire de l'Occident, les citoyens n'ont été aussi en sécurité et en santé. Jamais ils n'ont été aussi à l'abri des guerres, des crimes, des famines, des maladies. Et pourtant, les taux d'anxiété, de dépression et même d'idéation suicidaire sont en croissance, notamment chez les jeunes Canadiens. C'est le paradoxe auquel s'attaque l'anthropologue Samuel Vessière dans son essai « Homo fragilis, aux origines évolutives de la fragilité humaine », paru chez FYP Éditions en 2025, dont l'édition québécoise est prévue d'ici la fin de l'année. Il pose l'hypothèse que notre époque est marquée par une culture de la fragilité, dans laquelle les gens se définissent par leur souffrance plutôt que par leur force, ce qui les amène à revendiquer à grands cris leur statut de victime, qui du patriarcat, qui du féminisme, qui du colonialisme, qui du wokisme. Si bien qu'une compétition entre divers groupes réclamant chacun plus de reconnaissance et d'accommodement s'est installée au détriment de la cohésion sociale. Comment sortir de ce crêpage de chignons délétères et retrouver la résilience nécessaire pour affronter les défis collectifs de demain? L'Actualité s'est entretenue avec le professeur associé au département de psychologie de l'UQAM et au département d'anthropologie de l'Université McGill. Votre essai s'ouvre sur une thèse originale, peu souvent évoquée. Si les humains ont réussi à se développer de manière aussi extraordinaire par rapport aux autres espèces, ce n'est pas grâce à la loi du plus fort, mais en faisant le pari de la fragilité. Un atout qui se transforme aujourd'hui en piège, selon vous. En quoi consistait ce pari? Au fil des changements dans son environnement, le corps de l'Homo erectus s'est reconfiguré et sa force physique brute a diminué, ce qui aurait pu mener à sa perte. Mais son crâne s'est élargi, notamment grâce à la cuisson des aliments rendue possible par la domestication du feu il y a 1 million d'années. Cela a entraîné des modifications de l'appareil digestif qui ont permis de consacrer moins d'énergie à la digestion et plus à la réflexion. Or, pour que ces cerveaux plus volumineux puissent passer dans le bassin maternel, il a fallu progressivement que les mères accouchent plutôt de bébés extrêmement immatures, incapables de survivre sans des soins soutenus sur une longue période. Mais c'est justement cette nécessité pour la collectivité de prendre en charge ces êtres fragiles qui a favorisé le développement de ce qui fait des humains une espèce aussi résiliente, leur intelligence sociale, axée sur l'interdépendance et sur la transmission des connaissances et des compétences indispensables à la survie. Vous mentionnez aussi le rôle clé joué par un autre groupe vulnérable, les aînés. Oui, en particulier celui des grands-mères, comme l'a démontré l'anthropologue américaine Sarah Hardy dans les années 2000. L'allongement de la vie des femmes jusqu'à 30-40 ans après leur ménopause était coûteux pour le groupe puisqu'il fallait protéger ces êtres affaiblis physiquement par l'âge dans des environnements hostiles. Mais c'est beaucoup grâce à elle que l'enseignement de tout un patrimoine d'idées, de récits, d'outils et de solutions pour la survie a pu se perpétuer et continuer de se parfaire. Miser sur l'entraide et l'empathie plutôt que sur la force et le machiavélisme nous a bien servi. Si, à certains moments de l'histoire paléolithique, nous avons frôlé l'effacement, aujourd'hui, nous sommes des milliards. nous avons réussi à coloniser tous les recoins de la planète, des steppes glacées aux déserts brûlants, en passant par les jungles et les plateaux de montagne. Par mon travail de clinicien-chercheur, j'ai pu constater qu'on ne radicalise pas les gens en leur proposant des voitures sport. On leur montre des photos de bébés morts. C'est quand même étonnant que des êtres adoucis soient capables d'être si violents. Notre histoire est une longue suite de conflits sanglants où la loi du plus fort semble avoir prévalu. Paradoxalement, le développement de nos capacités à communiquer et à coopérer a donné naissance à une forme de violence unique à notre espèce qu'on appelle la violence proactive. Contrairement aux autres animaux qui réagissent avec brutalité à une menace immédiate, une impulsion aussi présente chez l'humain, mais qu'il apprend dès l'enfance à réguler pour maintenir l'ordre social, l'Homo sapiens est capable de planifier les pires cruautés de manière délibérée et de les exécuter collectivement à froid, souvent au nom de la protection des plus faibles, les enfants, les femmes, les aînés. La propagande nazie, par exemple, visait justement à trouver les coupables de la déchéance économique de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, qui s'était soldée pour elle par un échec humiliant. Il y avait cette idée que la famille et la culture allemande étaient victimes du complot juif. Par ailleurs, par mon travail de clinicien-chercheur au réseau Recherche et Action sur les polarisations sociales, RAPS, j'ai pu constater qu'on ne radicalise pas les gens en leur proposant des voitures sport. On leur montre des photos de bébés morts. Vous écoutez « Accorde-t-on trop d'attention à la souffrance ?» un texte de Marie-Hélène Proux, paru le 29 octobre 2025 dans l'Actualité. Selon vous, notre pulsion profonde qui nous pousse à donner des soins et à en susciter se retourne aujourd'hui contre nous. Qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste ? À la fin des années 2010, lorsque j'étais professeur de psychiatrie et co-directeur du programme Culture, Mind and Brain, culture, esprit et cerveau à l'Université McGill, fonction que j'ai occupée jusqu'en 2023, certains de mes collègues et moi-même avons commencé à observer une étrange épidémie de mal-être sur les campus universitaires. Les étudiants se sont mis à demander aux enseignants d'émettre des traumavertissements quand le contenu d'un cours ou d'un livre était susceptible de provoquer de la détresse psychologique. Des groupes marginalisés réclamaient aussi de plus en plus d'espace consacré à la validation émotionnelle, safe space, entre les murs de l'université, soit des lieux où toute forme de débat ou de propos jugés menaçants était proscrite. Les revendications identitaires, ethniques, religieuses, sexuelles et les diagnostics de troubles de santé mentale et d'apprentissage se multipliaient en même temps que les exigences d'accommodement en classe. J'ai vu alors se dessiner un nouveau paysage culturel où les récits de victimes et les demandes de soins occupaient désormais le centre du débat public. Demandes auxquelles les institutions, les écoles, l'État s'empressaient de répondre, obéissant ainsi à un réflexe évolutif très profond, le désir de veiller sur les autres. Pensons par exemple au guide d'écriture inclusive et aux néopronoms dans les signatures de courriels en usage dans diverses organisations. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Les horreurs commises pendant la Deuxième Guerre mondiale ont mené à une prise de conscience collective qu'il fallait lutter pour plus de droits de la personne, et nos démocraties ont évolué au fil des cris entendus pour plus d'égalité. Parallèlement à cela, notre culture est devenue de plus en plus individualiste, ce qui a conduit à une atomisation des demandes de soins qui fusent de toutes parts. Je cite souvent dans mon livre la fameuse loi de Moynihan que l'on doit au sénateur démocrate américain Daniel Patrick Moynihan, décédé en 2003. Ce dernier avait postulé que plus les choses vont bien dans une société, plus elles ont l'air d'aller mal. Par exemple, les plaintes pour violation des droits, véritables ou perçues, sont plus nombreuses dans les pays réellement démocratiques où le seuil de ce qui est considéré comme un tort est beaucoup plus bas. Mais cela peut créer un discours collectif qui entraîne la concurrence victimaire. Vous insistez aussi sur les effets insidieux de la contagion sociale et émotionnelle. C'est un phénomène sur lequel j'ai beaucoup travaillé comme chercheur. Plus le discours collectif se concentre sur la souffrance, plus celle-ci semble se propager, à plus forte raison à l'heure des réseaux sociaux. C'est comme si on importait des autres nos ressentis et nos croyances et que ça avait un impact sur le corps. Ça crée une sorte de boucle auto-entretenue où l'attention portée au mal-être finit par le renforcer. Ce processus d'amplification est le fruit d'un biais évolutif de négativité. Pour nous protéger, notre cerveau détecte et amplifie la menace bien plus qu'il ne savoure le bien-être. C'est l'effet nocebo, le jumeau maléfique du placebo. Notre capacité à nous rendre malades est bien plus puissante que notre capacité à guérir. Cela explique peut-être pourquoi, au moment même où le monde n'a jamais été aussi objectivement sécuritaire, le suicide est devenu l'une des principales causes de mortalité prématurée sur la planète, dépassant le nombre annuel de victimes d'homicides, de guerres et de terrorisme, et que la dépression est la première cause de morbidité et d'incapacité dans le monde, selon les données les plus récentes de l'Organisation mondiale de la santé. Cette dynamique victimaire génère une compétition malsaine entre divers groupes qui se disputent l'attention des soignants comme les enfants d'une fratrie. Quitte à surjouer ou à instrumentaliser leur malheur, souvent inconsciemment, pour qu'on s'occupe davantage d'eux. Quelles sont les répercussions de cette focalisation sur la souffrance? Une société qui reconnaît un groupe surtout pour sa douleur plutôt que pour sa dignité et sa valeur, même avec les intentions les plus bienveillantes du monde, nuit à sa résilience et à son estime de soi collective. C'est une démarche importante en thérapie. Une fois qu'on a reconnu la souffrance véritable d'une personne et l'injustice qu'elle ressent, sans pour autant valider toutes ses théories sur les causes externes de la blessure, on peut mobiliser les ressources internes de cette personne pour qu'elle s'épanouisse. Mais surtout, cette dynamique victimaire génère une compétition malsaine entre divers groupes qui se disputent l'attention des soignants comme les enfants d'une fratrie, quitte à surjouer ou à instrumentaliser leur malheur, souvent inconsciemment, pour qu'on s'occupe davantage d'eux. Ça nuit beaucoup au vivre ensemble qui approche, selon moi, du point de bascule en Amérique et en France. Pour s'arroger plus de reconnaissance, les uns et les autres s'accusent de ne pas vraiment souffrir et d'être en outre les artisans mutuels de leur malheur. À droite comme à gauche, du côté des minorités comme de celui de la majorité, chez les hommes comme chez les femmes, tout le monde se sent invalidé, victime de racisme, de l'immigration, du patriarcat, du féminisme. Or, le sentiment de ne pas être perçu positivement dans le regard d'autrui en tant que collectivité, un besoin fondamental, peut mener aux pires violences car c'est une atteinte à l'amour-propre, à l'honneur. L'une des formes que peut prendre cette violence est la culture du bannissement. Le fait d'éjecter des gens ou des œuvres de l'espace public parce qu'ils jurent avec les sensibilités de l'époque. Vous en avez vous-même fait les frais après avoir invité, pour une conférence à l'Université McGill en 2020, un psychologue torontois spécialiste de la dysphorie de genre, Kenneth Zucker. Ce dernier avait été accusé dans le passé de pratiquer des thérapies de conversion pour les gays avant d'être blanchi. Cela vous a coûté le non-renouvellement de votre poste de professeur-chercheur en psychiatrie. Vous êtes cependant toujours professeur associé au département d'anthropologie. Quel regard portez-vous sur cet événement? Ça a été très dur, mais ça ne m'intéresse pas de me présenter en martyr de la culture du bannissement, surtout après avoir écrit un livre sur la tentation de jouir à la victime. Ça n'aide personne à guérir ni à se développer que de constamment demander des réparations et de pointer ses ennemis. Et puis, j'éprouve de l'empathie pour les administrateurs des universités. Ils sont dans une position intenable. Ils essuieront un concert de reproches, peu importe leur décision d'imposer ou non la censure. J'espère surtout contribuer à la dépolarisation. C'est paradoxal qu'une société qui se targue d'être aussi libérale ne tolère plus le débat. Ayant travaillé sur la dépendance aux écrans, je plaide pour une meilleure hygiène de vie numérique dès l'enfance, afin d'amoindrir ce phénomène de contagion sociale évoqué plus tôt. Et aussi parce que les gens sont beaucoup plus ouverts à l'autre et nuancés quand ils se rencontrent en personne. Il faut encourager les jeunes à privilégier cette socialisation pour faire naître plus de solidarité. Je souhaite également qu'un éventail plus vaste de personnes soit écouté, notamment celles issues de la majorité. Dans les dernières décennies, nous avons eu le projet aussi noble que nécessaire de faire plus de place aux minorités dans nos démocraties. Mais on l'a fait en remettant fortement en question, voire en pathologisant la norme, la culture, les traditions de l'ensemble du groupe, avec la complicité d'institutions et de médias bien pensants qui validaient surtout les récits victimaires minoritaires. Pourtant, la norme n'est pas forcément mauvaise. Elle est même probablement nécessaire à la cohésion sociale. Et tout le monde a besoin d'avoir des représentations positives de son groupe dans l'espace public, y compris le groupe majoritaire. Le regain d'intérêt des jeunes pour la religion au Québec et ailleurs en Occident est une réaction au désordre de l'hypermodernité. Ils vont y puiser du sens, un sentiment d'appartenance à une communauté, une vision morale du monde, un cadre rituel prévisible pour réguler l'incertitude. Est-il possible qu'un rééquilibrage finisse par s'opérer, naturellement, après que nous aurons touché les extrêmes du règne de la victime? Absolument. Les générations cherchent toujours à transgresser ce qui avait été mis en place avant elles. Et déjà, sur le terrain, j'observe que les membres de la génération Alpha, la cohorte née après 2010, semblent se distancier de certains principes anxiogènes et culpabilisants érigés par les Z et les millénariaux. Par exemple, ils paraissent plus à l'aise avec les identités et les rôles de genre masculin et féminin. Autrement dit, ils sont moins dans le discours queer, polyamour, déconstruit, mais aussi moins dans le discours tradwife et mâle alpha. Je pense également que le regain d'intérêt des jeunes pour la religion au Québec et ailleurs en Occident est une réaction au désordre de l'hypermodernité, ce qui n'est pas sans faire réagir leurs aînés, d'ailleurs, qui s'étaient détournés de l'Église. Ils vont y puiser du sens, un sentiment d'appartenance à une communauté, une vision morale du monde, un cadre rituel prévisible pour réguler l'incertitude. J'espère, dans tous les cas, un rééquilibrage non pas régressif ou nostalgique, mais axé sur la complémentarité et la compréhension entre conservateurs et progressistes, jeunes et vieux, hommes et femmes. J'ai moi-même dû faire un cheminement en ce sens. J'ai beaucoup voyagé durant mon enfance bourgeoise et privilégiée, et je me suis souvent félicité de mon cosmopolitisme, de mon ouverture à la diversité. j'avais l'impression d'être dépositaire des vraies bonnes valeurs, contrairement aux plus carriérés. Mais j'ai fini par réaliser la violence de ma posture. Mes propres valeurs ne conviennent pas à tout le monde. Beaucoup de gens ont besoin d'enracinement, d'être fiers de leur patrimoine, et ça commande aussi le respect. C'était « Accorde-t-on trop d'attention à la souffrance ?» un texte de Marie-Hélène Proux, paru le 29 octobre 2025 dans l'Actualité.
Comment parler de climat aux enfants? Un texte de Valérie Simard, paru le 29 septembre 2025 dans La Presse. Ce dont on ne parle pas n'existe pas? Cette expression s'applique difficilement au changement climatique, nous rappelle une étude récente. Avec les enfants, combiner activité artistique et discussion philosophique peut aider à atténuer l'éco-anxiété. Que dit cette étude? La professeure et chercheuse en psychologie à l'Université Bishop's, Catherine Malbeuf-Urtubise, s'intéresse à l'art pour aborder des questions existentielles avec les enfants, notamment la mort et le désespoir liés au changement climatique. Elle a mené cette étude auprès de 238 enfants dans des écoles en Angleterre, en collaboration avec l'université Leeds Trinity et l'organisme Climate Adapted Pathway for Education, CAPE. Son équipe et elle ont comparé deux activités pédagogiques en lien avec le climat. Dans le premier scénario, les enfants, âgés de 7 à 12 ans, étaient invités à produire une œuvre et à la présenter à leur père. Dans le second, la création de l'œuvre et sa présentation étaient suivies d'une discussion philosophique en groupe. Les résultats, publiés dans la revue médicale JAMA Network Open, montrent que les activités artistiques sur le climat peuvent involontairement accroître l'éco-anxiété chez les enfants, mais les combiner à une discussion philosophique contribuent à faire diminuer ce sentiment. Au terme de l'activité, une hausse de l'espoir a par ailleurs été notée chez les deux groupes. Il faut créer des espèces de discussions, leur offrir la chance de construire du sens pour qu'ils puissent voir qu'ils ne sont pas les seuls à ressentir du désespoir, par exemple. Ça normalise l'expérience et ça aide au coping, à l'adaptation, constate Catherine Malbeuf-Urtubise. Comment se manifeste l'éco-anxiété chez les enfants? Pas si différemment que chez les adultes. L'éco-anxiété est un terme parapluie et qui englobe beaucoup d'émotions différentes, précise la chercheuse. Des émotions qui vont au-delà de l'anxiété. Cela englobe, selon elle, les réactions émotives liées à la prise de conscience que l'humain a un impact sur les changements climatiques et à l'anticipation de l'avenir. Quand on leur donne la chance de s'exprimer à ce sujet, les enfants vont exprimer des inquiétudes et aussi beaucoup de désespoir, constate-t-elle. Certains vont même jusqu'à confier n'entretenir aucun espoir en l'avenir. Comment réagir, comme parent ou éducateur, à ce genre de discours? C'est difficile à recevoir pour nous, reconnaît la psychologue qui est aussi maman. Et souvent, bien qu'on veuille bien faire, notre réaction initiale, « Ne pense pas à ça, ça va être correct. » n'est pas approprié, poursuit-elle. S'il n'a pas d'espace pour poser ses questions difficiles ou exprimer cette inquiétude, ça peut mener à plus de détresse psychologique, rappelle Catherine Malbeuf-Urtubise. Vouloir absolument sortir l'enfant de cette mauvaise posture n'est pas non plus le bon réflexe à avoir, selon elle. Peut-être que notre rôle d'adulte, c'est de l'accompagner, de métaphoriquement aller s'asseoir dans le noir avec l'enfant, de lui tenir la main, répondre à ses questions, valider ses émotions, lui dire que c'est normal d'avoir de la misère à trouver de l'espoir en parlant de crise climatique. De préciser aussi qu'une seule personne ne réglera pas le problème. Souvent, les enfants se sentent responsables, comme si le fardeau de régler la crise climatique leur revenait. Chez un enfant qui n'en parle jamais, ne risque-t-on pas d'induire une inquiétude en abordant le sujet? Cette crainte est souvent manifestée par les parents et les enseignants, constate Catherine Malbeuf-Urtubise. Elle dresse un parallèle avec le thème de la mort, qui est un autre de ses sujets d'étude. On se pose tous des questions sur la mort à un moment donné. On ne va pas induire de l'anxiété si on ouvre le sujet. C'est un peu le même principe avec les changements climatiques. On a fait beaucoup d'études à ce jour, et les enfants, au Québec comme au Royaume-Uni, manifestent le besoin d'en parler ouvertement, et ils n'osent pas. Alors, c'est correct d'ouvrir le sujet, quitte à le refermer s'il ne se pose pas de questions du tout. Elle présente les résultats de recherche réalisés par l'une de ses étudiantes à la maîtrise. C'est dans les familles où les parents affirmaient que leur enfant n'était pas inquiet des changements climatiques que les jeunes l'étaient le plus. Devrait-on en parler autant à l'école qu'à la maison? Oui, selon Catherine Malbeuf-Urtubise. Je travaille beaucoup dans les écoles. Et je pense que ça relève aussi du curriculum scolaire à l'école primaire, de commencer à parler des changements climatiques. Elle remarque que des efforts en ce sens au cours des dernières années, mais constate aussi que les enseignantes se disent mal outillées pour accueillir le flot émotif que cela peut engendrer. Une manière d'y remédier, dit-elle, c'est de les former, elles aussi, à ses approches. C'était « Comment parler de climat aux enfants? » Un texte de Valérie Simard, paru le 29 septembre 2025 dans La Presse.